RMC, quand Brigitte Lahaie fait son show, c'est le Lahaie Night Show.
Bonsoir à tous. Et oui, notre Lahaie World Show se termine presque, mais pour notre avant-dernière émission, eh bien, je vous ai trouvé une petite dernière. Elle s'appelle Ornella Fleury. Et rien que son nom me laisse penser qu'elle est plutôt coquine. Mon autre camarade, voyez, vous l'entendez déjà. Mon autre camarade féminine, vous l'aviez entendu tout au début. Elle nous revient toujours aussi libre. C'est Camille Emmanuel. Remarquez, son nom laisse tout autant penser qu'elle est coquine et libérée. Et d'ailleurs, ce sera notre thème de ce soir. Les femmes sont-elles vraiment libres, libérées? Enfin bref, on verra tout ça. Quant à notre homme de ce soir, c'est un homme qui ne cesse de contribuer à la liberté des femmes en leur ouvrant la boîte de Pandore, puisqu'il édite de nombreux ouvrages érotiques, dont beaucoup d'ailleurs sont écrits par des femmes, et c'est Frank Spangler qui nous tient compagnie. Alors, avant de présenter nos trois invités, je vais vous donner tous les sujets de ce soir. Alors le sujet, vous l'avez compris, c'est les femmes et la liberté des femmes. On a testé ce fameux rabbit vieille génération. J'en ai deux là que je pourrais montrer à mes invités dans un instant. En love coaching, comment on gère un dîner à trois? On est avec son partenaire ou sa partenaire et puis il y a son ou sa meilleure amie ou sa belle-mère ou je ne sais qui d'autre. C'est jamais très simple d'être trois autour d'une table et c'est ce qu'on verra. Et en lecture érotique, on ne pouvait pas ne pas le lire un soir, bien sûr. Donc j'ai choisi Sade. J'ai choisi évidemment le livre de Sade le plus abordable, La philosophie dans le boudoir. Voilà. Bonjour Camille Emmanuel.
Bonjour.
Vous êtes déjà venue, vous avez rencontré lors de la sortie de ce livre Sex Powerment, où vous parlez beaucoup d'ailleurs de la liberté des femmes.
Oui, je crois d'ailleurs que c'est un peu le sujet principal de l'ouvrage, c'est le questionnement personnel et aussi sociétal. Ça veut dire quoi être libre aujourd'hui en tant que femme, en tant qu'homme aussi, je parle un peu des hommes.
Oui,
mais mais qu'est-ce que ça veut dire la liberté?
Vaste sujet.
La liberté sexuelle et la liberté par rapport au corps et par rapport aux hommes aussi dans la société.
Ornella Fleury, bonsoir.
Bonsoir.
Vous jouez actuellement un spectacle donc au Point Virgule.
Oui.
Un spectacle où vous êtes seule sur scène, c'est bien ça?
Ouais, c'est ça, c'est du stand-up.
Voilà, et vous allez nous dire aussi. Alors en tout cas, je pense que vous êtes libre, vous.
Ah oui. Oui, dans ce spectacle, en tout cas, je suis très libre et je me suis accordé beaucoup de droits sur scène, ouais.
Malheureusement pas été le voir encore, mais j'ai vu des extraits et en effet.
Oui, en tout cas, sexuellement sur scène, je suis très libre. Voilà. Et même libre de toute parole et tout, donc.
Vous êtes libre ce soir aussi,
Oui.
Je vous rassure, on est là. Ça va, Franck Spangler?
Vous êtes en bonne compagnie. Très bien, je suis entouré de trois très belles femmes. C'est un bonheur.
Justement, vous éditez beaucoup de romans érotiques écrits par des femmes. C'est pas forcément des femmes libres d'ailleurs. On peut écrire un roman érotique sans forcément être libre.
Absolument. Il y a beaucoup de femmes qui utilisent l'écriture érotique pour justement comme moyen de libération d'elles-mêmes, mais elles ne passeraient jamais à l'acte de ce qu'elles écrivent. Et elles me le disent très franchement d'ailleurs quand une complicité se crée entre nous, en disant moi c'est un espace de liberté intellectuelle, de liberté artistique, mais j'ai pas forcément envie de me retrouver dans des situations que je dépeins, certes qui m'excitent, mais qui m'exciteraient peut-être pas si je les vivais.
Toute la question du fantasme, bien sûr.
Absolument.
Mais cela dit, déjà, pouvoir fantasmer et pouvoir l'écrire, c'est déjà un début de liberté.
Ah, ça a été une grande révolution pour les femmes, c'est-à-dire l'accès à simplement l'écriture du plaisir, du désir, du corps. Ça a été quelque chose qui a mis du temps, d'ailleurs, à émerger avec des femmes très courageuses sur ce terrain. Je pense à Régine Deforge, mais je pense aussi après à Emmanuel, je pense à Françoise Rey, qui ont ouvert le terrain et qui, bon, et maintenant je suis vraiment heureux de voir des jeunes femmes qui expriment leur désir clairement, simplement, avec les mots justes pour le dire.
Et par exemple, Ornella Fleury, votre spectacle sur scène, vous pensez que c'était possible il y a 30 ans?
Pour une femme, je crois pas. Pour un homme, oui, ils ont quand même eu beaucoup moins de soucis que nous. Pour une femme, je suis pas sûre. En plus, ce que je remarque beaucoup, c'est que les hommes ont quand même un peu du mal encore. Ils mettent beaucoup plus de temps à accepter qu'une fille puisse dire, en tout cas aussi librement, plein de trucs, en tout cas sexuels et tout, parce que ça parle de sexe dans mon spectacle, mais pas que non plus. Mais il y a une liberté.
Enfin, pas que là, on se pose des questions, hein, déjà.
Oui, bon. ok, alors que, du coup. Mais non, en fait, il y a quand même une liberté de ton en dehors juste du sexe qui fait que c'est un peu déroutant pour les garçons. Oui,
mais voilà. Moi, je me souviens, j'avais vu les monologues du vagin et j'avais été très surprise. Alors, les femmes appréciaient énormément et les hommes étaient assez gênés, finalement, lors de ce spectacle.
On leur vole un peu leur pouvoir sur ça, donc ça les dérange un petit peu, mais finalement, au bout d'un moment, ça passe. Mais celles qui rient le plus fort, c'est quand même les filles, parce que voilà, elles sont contentes que quelqu'un puisse dire assez haut ce que nous, en fait, on se raconte.
Bien sûr.
Entre nous.
Comme le disait Franck, c'est assez récent, en fait, cette parole féminine sur le sexe, sur le désir. Et cette parole sur le désir qui est pas forcément celle qu'on pense qu'elle devrait être selon les critères et les stéréotypes féminins. Ce désir peut être violent, ce désir peut être parfois trash, etc.
Trivial, oui, bien sûr.
Et voilà, parmi les auteurs de textes érotiques et pornographiques, moi je mélange les deux, je fais pas de distinction, mais il y a des choses, souvent les fantasmes les plus crus sont écrits par les femmes, et c'est assez en effet émancipateur, en effet libérateur de lire ça. Et pour reprendre ce que vous disiez, Brigitte, tout à l'heure, libre, ça ne veut pas forcément dire libertin.
Non, c'est sûr.
Du coup, voilà, ces auteurs-là, le fantasme est écrit, mais elles peuvent. Bah, Françoise Rey, elle était prof, elle avait une vie, elle était mariée, etc. Bon, elle avait des amants.
Oui, elle symbolise pas du tout ce qui est la femme libre.
Pas du tout.
Françoise Saint-Père. Françoise, pardon. Mon lapsus, c'est intéressant. Françoise Rey.
Oui, et en fait, c'est la liberté, c'est pas forcément passer sa vie en club libertin
c'est
ou avoir.
Forcément être une salope, vous voulez dire.
Non, même si on peut l'être aussi.
Oui. Oui. Mais c'est un choix, voilà. La liberté, c'est pas d'être ce que les autres voudraient que l'on soit. La liberté, c'est de s'autoriser à.
S'autoriser le désir, le non-désir aussi.
Mais
parce
s'autoriser
qu'il y a des
dans
gens qui
tous les
pas...
domaines, ça peut être aussi, je peux m'autoriser à rire d'une vanne idiote, voire raciste, voire tout ce qu'on veut, parce que c'est à ce moment-là, dans ce contexte-là.
Oui,
je suis pas sous la permanence du regard des autres qui me jugent.
Mais moi je remarque une chose, par exemple, aujourd'hui, c'est très compliqué quand on a envie, par exemple, d'être femme au foyer pour élever ses 3 ou 4 enfants qu'on a désirés. C'est très compliqué, on a enfin, je parle pas de moi, évidemment, là, hein, mais il y aura les copines qui diront, mais quand même, tu devrais travailler, tu serais plus libre, alors que si la liberté, c'est aussi d'être femme au foyer,
Évidemment, il y a beaucoup d'injonctions sur les mères en général, et il faut ni être une mère qui bosse à fond et qui a décidé de faire garder ses enfants et de faire une carrière,
ou pas,
ni être au foyer, il faut être entre les deux. Et entre les deux, finalement, le terrain de liberté est assez limité. Quoi. Il y a beaucoup d'injonctions sociétales sur les femmes et particulièrement, je trouve, sur les mères, en effet.
Donc, je crois que le conseil qu'on pourrait donner aux femmes qui nous écoutent, c'est que la première chose à faire, c'est déjà de savoir exactement quelle femme on est et se libérer des injonctions, se libérer de sa mère, parce que la mère, c'est peut-être le premier poids pour une femme qui l'empêche d'être libre, parce qu'on veut faire exactement comme elle, ou le contraire.
C'est le contre-exemple.
Mais quand on fait le contraire, on fait quand même par rapport à elle. Donc elle est
c'est pour ça. C'est pour ça que je dis la première injonction, c'est maman.
Et puis après,
moins pour les hommes.
Moins pour les hommes, c'est vrai.
Et ensuite, évidemment, ça passe aussi par une certaine liberté de son corps. Je crois qu'on peut pas être une femme libre si on n'est pas libre de dans son corps. Alors, ce qui veut pas dire faire tout ce que j'ai fait, hein. Mais forcément, il faut être libre dans son corps.
Bah oui, c'est ça, mais c'est difficile, je pense. En fait, ça, c'est jeune, c'est compliqué. Moi, je pense qu'il y a que maintenant, à 30 ans, où je me sens assez libre et tout. Plus jeune, c'était trop compliqué. Il faut assumer plein de choses.
C'est normal. C'est normal.
C'est normal avec l'adolescence.
Tous
les ados sont mal dans leur.
Même à 20, 25, c'est quand même encore compliqué. T'assumes pas trop. Et à 30 ans, c'est vrai qu'il y a une espèce de truc vraiment très libérateur. Et c'est ce qu'on disait. Enfin, moi, par rapport au spectacle, en fait, c'est pas parce que je dis autant de trucs ou trash ou que je fais tout ça. C'est juste que j'avais envie d'aller plus loin et de un peu montrer
ça vous excite quand vous sentez que dans la salle, justement, ça réagit, que ça
ça me fait tellement.
Il y a un côté provoque quand même.
Ah, complètement. Et en plus, surtout que moi j'ai quand même une façon
bienvenue au club.
Merci. En fait, c'est que en plus j'ai une façon très douce de sortir des trucs un peu dégueulasses. Donc du coup, c'est ça qui il y a un contraste.
Oui, vous avez une certaine classe, on pourrait dire.
Voilà, c'est ça. J'essaye en tout cas. Ouais.
ce qu'on appelle les scénarios de rupture dans un roman.
Ah oui, c'est ça. Et pour vous, Frank Spengler, quelles seraient les femmes qui symbolisent réellement la liberté aujourd'hui?
Là, aujourd'hui, tout de suite, moi, je trouve les femmes, hélas, souvent rentrent dans les moules qu'on veut leur imposer. Mmh. Que ce soit les moules physiques, les canons de beauté et tout. Celles qui me viennent à l'esprit, là, sont... je pense à cette comédienne, là, qui jouait dans Gazon Maudit.
Josiane
Balasko, je trouve que c'est une vraie femme libre, qui est libre de parole, libre de pensée, qui peut aussi penser une chose et pourquoi pas son contraire. Voilà, je trouve que c'est une femme libre. Vous, Brigitte, fait un peu une lèche-botte, mais je pense que vous êtes une vraie femme libre. Si je le citais dans une autre émission, je vous citerais.
Bien sûr, non, mais ça, tout le monde me le dit suffisamment que je puisse l'affirmer.
C'est-à-dire des femmes qui ne sont pas dans un paraître permanent. Il y a des hommes qui sont aussi...
Bien sûr.
Mais voilà, qui s'autorisent à être. Voilà, et vous l'êtes.
Et on revient justement à la question d'âge, parce que ce soit Josiane Balasko ou moi-même, on a dépassé la cinquantaine. Donc, vous voyez, on est là, vous serez encore plus libre dans une vingtaine d'années.
Il faut un parcours de toute façon.
Je dirais que Camille, me semble-t-il, est une femme quand même assez libre aussi. Je connais un peu sa vie et je pense qu'on peut dire aussi que Camille Emmanuel est une femme assez libre. Donc nous sommes trois femmes libres. Oui. Eh bien, à vous de...
Et un homme menotté.
De faire ça.
Mais j'aime ça.
Quel scénario.
Donc il est libre.
Voilà.
Et puis je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les infos du Late Night Show sur la page Facebook de l'émission ou sur le compte Twitter, la RMC. Et puis je vous propose qu'on écoute le témoignage de Michel. Il se demandait pourquoi sa partenaire n'avait plus aucun désir après avoir eu un orgasme. Et puis on va écouter. Tout le monde se pose encore des tas de questions, vous savez. Christophe, qui mettait bien en avant combien il est difficile d'être femme et maîtresse à la fois. Donc on reste un peu dans le sujet. Et c'était avec Jean-Benoît Dumontex ce jour-là.
RMC, quand les femmes se lâchent, c'est dans le Late Night Show.
Bonjour.
Bonjour. Vous avez envie de nous parler de votre relation à la fois avec votre femme et votre maîtresse. Enfin, à la fois, non, parce que je pense pas que vous les avez les deux en même temps.
Ah, ça serait trop beau. Mais ça, c'est dans les rêves.
Je suis pas sûre. Alors, voyez, moi, je suis pas sûre que ce soit vraiment, vraiment quelque chose que vous espéreriez. Je sais pas ce que vous en pensez, Jean-Benoît Dumontex, parce qu'en fond, au fond, c'est tellement deux choses vécues différemment, c'est tellement deux histoires qui sont parallèles, je suis pas sûre qu'on pourrait les mettre ensemble.
Non, c'est deux espaces, et c'est justement pour ça que ça fonctionne. C'est deux espaces très, très différents, et je pense qu'il se passe pas du tout la même chose avec votre maîtresse qu'avec votre femme.
Ah, tout à fait, on parle pas des mêmes choses, on n'a pas les mêmes objectifs. La vie est complètement différente. Ma maîtresse vit d'une façon, ma femme vit avec moi depuis des années, depuis d'une autre. C'est vraiment deux femmes totalement différentes. Mmh. Elles sont à l'opposé. Mmh. Et c'est pour ça que je les aime toutes les deux. Et c'est vrai que c'est dur de se dire d'aimer deux personnes et il y en a qu'une qui est au courant, ma maîtresse.
Mais en général, oui, c'est la deuxième qui est au courant, la première. On lui annonce pas qu'il y a une... Il y en a une autre qui arrive. Mais vous savez, Christophe, vous dites elles sont à l'opposé, et ça aussi c'est très fréquent, parce qu'au fond, on choisit une femme à un certain âge pour des raisons qui correspondent à ce qu'on est à ce moment-là, et puis on évolue un petit peu, et à un moment donné, on va rencontrer une femme qui va mettre en lumière d'autres parties de notre personnalité. Et donc c'est intéressant, c'est riche en émotions, et voilà, et en même temps, votre femme, vous avez énormément d'affection pour elle, vous n'avez absolument pas envie de la quitter, mais vous avez envie de vivre cette nouveauté, si je puis dire.
Oui, j'ai envie de vivre cette nouveauté, mais je ne dirais pas que, comme ça, une nouveauté sur un coup de tête, parce que c'est quand même des sentiments qui sont profonds.
Je ne dis pas le contraire.
Voilà.
Rien
donc,
n'empêche.
C'est pas un coup de tête, c'est pas une amourette. C'est vrai, c'est quelqu'un que j'aime profondément, avec qui je me sens bien. Je passe une à deux fois par semaine les midis avec elle.
Mais Christophe, c'est pas les psys qui ont dit qu'on ne pouvait pas aimer deux personnes à la fois, hein. N'est-ce pas, Jean-Benoît?
Je ne sais pas. Moi, je ne suis question de personne. Je pense que si. Je pense qu'on peut, effectivement. Deux, peut-être même plus, d'ailleurs.
Au plus, alors après, il faut avoir la forme.
Il faut avoir un emploi du temps large et puis beaucoup d'énergie. Voilà, deux, c'est déjà pas mal. J'allais vous demander d'ailleurs, ça doit vous demander quand même quelques aménagements et puis quelques réflexions aussi, ne pas dire certaines choses, en cacher d'autres.
Ah bah c'est sûr, donc il y a des choses que je ne vais pas dire à ma maîtresse et encore moins à ma femme. C'est sûr que là-dessus, il faut faire attention, les SMS, il faut faire attention, il faut tout le temps effacer le téléphone. Ma maîtresse ne m'appelle jamais, c'est toujours moi qui appelle. Donc c'est vrai que par rapport à ça, elle est très respectueuse, parce qu'elle-même.
Et est-ce que là-dedans, il y a quelqu'un qui souffre?
Ma maîtresse, surtout.
C'est souvent ça, d'ailleurs. Hein.
Et vous, parce vous souffrez ou pas?
Ah bah bien sûr, je souffre, parce que...
En quoi vous souffrez?
Eh bien, si vous voulez, quand elle a des problèmes, je ne suis pas avec elle pour les résoudre. Donc, elle a des problèmes avec ses enfants, elle a des problèmes personnels.
Mais Christophe, c'est une maîtresse, c'est pas une femme.
Oui, je suis d'accord. Mais on peut s'intéresser quand même à la vie de l'autre. Une maîtresse, c'est pas simplement coucher avec quelqu'un. C'est avoir des sentiments.
J'ai pas dit ça, mais ce que vous m'avez répondu, c'est le rôle du mari auprès de sa femme.
Oui, tout à fait. Mais moi, j'y vois un petit peu comme ça. Ai-je tort? Je ne sais pas.
Je parle pas de tort ou de raison. J'essaye de vous éclairer sur ce que vous ressentez, sur vos émotions, vos sentiments. Mais si vous voulez, ce que vous m'avez dit, c'est qu'au fond, vous voudriez être toujours là, toujours présent pour elle. On peut pas être toujours là et toujours présent pour deux femmes.
C'est
pas possible. Donc je crois que c'est là où il faut que vous soyez clair, Christophe. Est-ce que vous aimez votre femme et que vous n'avez pas envie de mettre votre couple en danger et à ce moment-là, il faut considérer votre maîtresse comme une maîtresse? Ou alors, il faut peut-être vous poser la question, il est peut-être temps de quitter votre femme et de vous engager avec cette femme. Mais voyez, ne soyez cohérent.
Oui, mais c'est dur à être cohérent parce qu'on est pris sous l'émotion.
Non, c'est pas dur d'être cohérent, c'est exigeant.
Oui, exigeant, oui, vous avez raison.
Arrêtez mais de sourire comme ça, Jean-Benoît Dumontex.
On trouve en moi, là.
Non, mais je crois que Brigitte a raison dans ce qu'elle dit. Hein. Et bon, j'espère que ça va vous éclairer un petit peu, mais quand on vous entend parler de votre maîtresse, on pourrait penser que c'est votre femme, ou qu'en tout cas, c'est votre désir.
Oui, quelque part, oui, mais j'ai ma femme. Donc, mais je pense, comme je vous dis, il y a beaucoup d'hommes qui doivent se reconnaître dans ma situation.
Bien sûr, mais cette situation, elle n'est viable que si on est cohérent avec soi-même. Quand je vous pose la question, est-ce que vous souffrez? Vous m'avez pas répondu réellement. Vous m'avez dit, je souffre parce que je peux pas tout donner à ma maîtresse. Mais c'est pas ce que j'appelle une vraie souffrance.
La souffrance, c'est quoi? Parce que on peut souffrir de différentes façons.
La souffrance, c'est par exemple de ne plus vous sentir bien quand vous êtes avec votre femme. Ça peut être de vous sentir coupable quand vous êtes avec votre maîtresse. Voyez, là vous êtes dans une souffrance de
fantasmer un peu.
Oui, ouais. Et puis de personnes qui supportent pas de pas tout avoir, quoi. Mais ça,
frustration, peut-être.
Vous êtes d'accord, Jean-Benoît Dumontex, de toute façon, on n'a pas tout dans la vie.
Ah non, puis encore heureux, c'est très bien d'être frustré. Hein.
Oui, ça je suis pas sûre, mais
bon. Si, ça fait du bien d'être frustré.
Ça fait du bien. Voilà. Donc Christophe, soyez plus clair dans ce que vous désirez. Alors, pour l'instant, vous pouvez très bien vivre cette relation triangulaire. Hein. C'est pas, vous ne seriez pas le premier. Mais soyez plus clair dans ce que vous voulez. Je crois que pour l'instant, c'est un peu confus. C'est peut-être comme ça qu'on peut vous aider.
RMC, le meilleur de Brigitte Lahaie.
Michel est avec nous. Bonjour Michel.
Oui, bonjour.
Bonjour, vous avez 35 ans et vous voulez comprendre pourquoi lorsque votre partenaire a un orgasme, elle s'arrête net.
En fait, à chaque fois, donc moi j'aime beaucoup lui faire du cunnilingus, voilà, où vraiment je me concentre beaucoup sur l'orgasme de ma partenaire. Ça fait à peu près 8 ans qu'on est ensemble, donc ça fait assez longtemps. Et le problème, c'est que à chaque fois en fait que elle termine, enfin qu'elle a son orgasme, donc c'est souvent clitoridien. Derrière, ça redescend beaucoup. Donc du coup, moi, ça m'excite un petit peu moins parce que j'aime lui donner du plaisir. Et le fait de voir qu'elle s'arrête un petit peu ou qu'elle est un petit peu moins, j'aimerais en fait savoir s'il y a une astuce pour que je puisse toujours autant lui faire plaisir, mais que derrière, elle ait quand même envie de continuer, que ce soit toujours aussi intense pour elle.
Mais rien ne dit qu'elle a pas envie de continuer.
Voilà, elle a toujours envie, mais elle a beaucoup moins de plaisir, je le sens. Et le problème, c'est que moi, j'ai beaucoup d'excitation dans le fait de voir qu'elle a du plaisir. Et vu qu'elle s'est redescendue, ça me bloque un petit peu, quoi.
Mais à votre avis, Michel, pourquoi, après un orgasme intense, ça redescend?
Je sais pas, parce qu'après, c'est vrai que moi, c'est vrai que j'aimerais continuer la pénétration.
Michel, ma question, évidemment, je vais vous donner la réponse, mais elle est essentielle. Après un orgasme intense, il faut que ça redescende, sinon on explose.
Oui. Ouais.
Donc c'est normal que après que vous lui ayez donné un gros orgasme superbe, formidable,
j'essaye, hein.
Puissance 10. Non, mais visiblement c'est ce que vous arrivez à faire. Puis vous la connaissez par cœur depuis 8 ans. Vous
voilà,
aimez, en plus vous aimez faire des cunis, donc je n'émets aucun doute sur vos qualités d'amant. Mais c'est normal qu'elle soit après dans une phase un petit peu plus tranquille. Mais c'est en même temps une phase de certainement de lâcher prise où elle est tout à fait apte à vous accueillir, et c'est là où il faut revenir à votre plaisir. Je dis toujours que un bon rapport sexuel, c'est beaucoup de générosité et beaucoup d'égoïsme. On peut pas être tout le temps dans le donner et jamais dans le prendre. Et là, finalement, vous êtes trop dans le je veux donner, et vous ne voulez pas prendre. Et c'est pour ça que vous avez ce questionnement. Vous comprenez?
Mais en fait, moi, je prends, c'est vrai de voir que elle a beaucoup de plaisir, etc. Mais c'est vrai que le fait qu'après elle redescende, du coup, ça me bloque
bien.
Un petit peu. Ça m'arrête aussi un petit peu derrière, parce que j'aime en fait voir qu'elle a du plaisir.
C'est bien pour ça que je vous explique. C'est bien pour ça que je vous explique ce qui se passe, pour que ça ne vous arrête plus.
Physiologiquement, une femme qui a un bel orgasme, elle savoure la descente aussi.
D'accord. Donc ouais, après, limite, il faut que je laisse 2-3 minutes un peu plus calme.
Oui, au moins, oui.
Oui,
avec des caresses.
Et puis je pense qu'elle n'a qu'une envie, c'est vous donner du plaisir pour vous remercier du plaisir que vous lui avez donné. Il n'y a pas de souci.
Ouais, parce que je sais que des fois, enfin, elle est, on continue. Enfin voilà, il n'y a pas de souci, on continue. Mais je vois bien que elle, c'est plus pareil, quoi. Concentre, on va dire, sur moi pour que ça dure pas non plus 10 ans. Autant j'ai envie que ça dure jusqu'à ce qu'elle ait son orgasme. Donc des fois, je la pénètre, je refais un cuni, je la pénètre, enfin, j'alterne pour la faire monter. C'est vrai que dès qu'elle l'a eu, bah après, du coup, c'est un petit peu,
c'est tout à fait naturel ce qui lui arrive, bien sûr.
Mais Michel, vraiment, soyez tranquille, vous faites bien l'amour à votre partenaire, et puis n'hésitez pas ensuite à vous arriver à l'orgasme. C'est vraiment ce que vous décrivez, c'est tout à fait classique.
Ouais, mais c'est frustrant de voir
que madame est moins. Pourquoi c'est frustrant? C'est pas frustrant d'être un peu égoïste. C'est de prendre du plaisir, voyez.
Ouais, mais c'est vrai qu'entre le moment où, par exemple, je vais faire la pénétration, donc elle alterne avec le cuni, et là, elle a beaucoup, beaucoup de plaisir. Et puis c'est vrai qu'après, je vois bien que, autant je la pénètre avant l'orgasme, elle a beaucoup de plaisir, mais après l'orgasme... Bah,
non, mais alors à ce moment-là, on va dire les choses autrement, Michel. Ce que vous trouvez frustrant, c'est qu'elle ne soit pas un peu vaginale, et que vous la trouvez trop clitoridienne.
Bah, des fois, elle a beaucoup de plaisir aussi de manière vaginale. Ça, c'est, je veux dire, quand je la pénètre avant qu'elle ait eu l'orgasme, on va dire, elle a beaucoup de plaisir. Mais c'est après, en fait, c'est vrai que moi, je suis un peu déçu, quoi.
À ce moment-là, vous faites l'amour un peu différemment. Vous commencez à faire un cuni, vous la laissez un petit peu en suspens, vous lui faites l'amour, et puis ensuite, vous lui donnez son orgasme.
Ouais, entre guillemets, ça veut dire que moi je finis et puis après je lui redonne son orgasme avec le cuni, c'est ça?
Voilà, par exemple, oui. Et à ce moment-là, elle restera sur une vague de plaisir, mais elle aura pas eu d'orgasme, et vous terminez en lui donnant un orgasme.
Moi, comme ça, je l'ai eu avant et j'ai plus le contre-coup, on va dire, de voir que
Exactement.
Donc soit je fais des caresses pour essayer de faire la transition, on va dire, et voilà. Et m'occuper d'elle, ou soit le temps que ça remonte, ou soit à ce moment-là je finis avant et je m'occupe d'elle à la fin, entre guillemets.
Voilà, vous pouvez très bien faire l'amour de cette manière-là. Il y a pas, vous savez, on peut inverser, on peut changer, on n'est pas, chacun s'adapte en fonction de sa fantasmatique. Et ça peut très bien marcher comme ça, peut-être mieux même pour vous.
Ah bah ouais, parce que c'est vrai que si je vois qu'elle a beaucoup de plaisir, moi je vais finir un petit peu plus vite forcément, mais c'est vrai que voilà, après, si je vois qu'elle a quand même de l'orgasme, je vais continuer pour lui donner l'orgasme au bout, quoi.
Voilà, et comme ça, vous terminerez sur l'apothéose qui semble être importante pour tous les deux. Voilà.
Ah ouais, c'est vrai que c'est important. Ok, super.
Et je vais sortir de ma poche deux fameux rabbits vieille génération et on va vous dire ce qu'on en pense.
RMC, c'est le Lae Night Show. RMC, quand Brigitte Lae fait son show, c'est le Lae Night Show.
Voilà, alors j'ai dans les mains deux rabbits, un petit modèle et un plus grand modèle. Le petit modèle, les piles, je sais pas ce qui se passe, ça marche pas, mais le grand, il marche, il tourne, il voilà, donc je...
Il est pas trop bruyant.
Non, il est, non, il est pas trop bruyant.
Moi, qu'est-ce qu'il veut beaucoup, beaucoup plus de bruit.
Ornella, je vous le confie.
Voilà, merci.
Et puis vous le passerez à Camille après. On est avec Franck Spengler, Camille Emmanuel et Ornella Fleury. Alors, je dis ancienne génération parce que maintenant, il y a des rabbits qui ont plus d'oreilles de lapin, qui ont juste un phallus et puis un impadis,
ouais, hein, ouais.
Voilà. Tandis que celui-ci, c'est vraiment le rabbit ancienne génération, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la rotation avec des billes et puis l'appendice qui se termine par deux oreilles de lapin, d'où le nom rabbit. Voilà.
C'est un objet révolutionnaire. Parce que c'est comme ça qu'en France, on a intégré la culture du sextoy. C'est grâce à ce petit lapin.
Ouais. Oui, et surtout.
C'était pas le petit canard au départ?
Bah, il y a eu le canard avec Sonia Riquel qui avait fait tout un truc,
ça,
etc.
Dans sa boutique,
mais le canard, bon, c'est pas très. C'est pas vraiment.
Ça sert à rien.
Ouais, c'est un objet de décor.
Mais,
le rabbit, qui est quand même plus efficace et plus, voilà, plus phallique, et puis qui est un vrai, pour moi, un vrai sextoy, c'est dans Sex and the City.
Exactement.
Qui est une scène où, justement, les copines découvrent une des meufs de Sex and the City qui a acheté un rabbit et à la fin elle s'en achète tout un et c'est voilà, et c'est en voyant cette série qui a mis du temps à arriver en France, mais tout d'un coup il y a eu un boom du rabbit et ça a pas mal décomplexé pas mal de femmes dans l'achat de sextoy.
Alors l'inconvénient de ce rabbit ancienne génération, c'est qu'il est pas très saillant, quoi. Il fait, mais enfin au moins il indique la couleur, si je peux dire.
Bon, déjà il est rose, donc déjà il y a un concept, voilà.
Et orange aussi, hein.
Et un peu un peu fluo, mais on sait pas trop. C'est oui.
C'est... Et puis il ressemble à.
Et moi je vois une bite comme ça, je pars en courant. Hein.
T'en as jamais c'est bizarre,
ah non,
comme
mais...
ça. Moi, plus.
Allez, sur un vrai bonhomme. Ah non, ça fait peur.
N'empêche que le bonhomme qui s'est tourné comme ça, en rotation,
celui-là, faut le garder, celui-là.
Hein, on est d'accord. Hein.
J'ai l'impression que les nouvelles générations, c'est plus courbé aussi, pour atteindre justement
souvent,
le point G ou la zone G.
Ce qui n'est pas forcément d'ailleurs la meilleure idée, je trouve.
Ah ouais,
mais je trouve que ce système de rotation, on a beau dire, c'est très efficace. Enfin, pour moi, ça reste un des jouets, même si il date déjà d'une dizaine d'années. Hein. Je pense que ça reste un des jouets les plus efficaces pour procurer un véritable orgasme à une femme.
Oui, et puis il y a une double stimulation externe et interne, donc ça c'est super.
Et puis, en plus, c'était pas le cas des tout premiers, mais là, vous avez vu, hein, vous avez différentes vitesses de rotation, différentes intensités pour les petites oreilles.
Ah oui, c'est très organisé. Il y a trois vitesses.
Il faut juste apprendre le mode d'emploi avant de s'en servir.
Oui, des fois, c'est un peu complexe.
Vibration et vitesse.
Et rotation. Voilà. Il faut avoir bac plus 10 pour comprendre la vite. C'est ça, c'est pas pour tout le monde. Il y a les petites billes qui tournent aussi et tout.
Et ça tourne dans les deux sens, normalement.
Ah oui, on peut inverser la rotation.
Ben oui.
Et
oui,
ah ouais, d'accord. Et oui.
Ah oui.
Voilà. Bon, je vais rester ici moi un moment. il est vachement bien. Vraiment.
Je vous le passe, Franck, parce que vous n'avez pas l'air de trop connaître.
Si, moi j'ai le même, mais en plus joli.
En plus joli, c'est-à-dire la nouvelle
sur
génération.
Non.
Sur vous.
Non, comme ça. Non, mais en plus joli, c'est-à-dire que là, il y a trois couleurs, machin. Moi, non, il est unicolore et tout. Et il y a plus de billes. Il y a un petit peu plus de billes. Ça monte un peu plus haut, les billes qui tournent.
Mais après,
mais c'est le principe est le même. Mais voilà. Non, très efficace.
Et dans les nouvelles générations, c'est de plus en plus stylisé et ça ressemble de moins en moins une verge aussi, les trucs.
Ça.
Et en fait, je trouve ça
c'est
pas mal.
C'est politiquement correct du sextoy.
Bah oui, ça devient, ça ressemble ou à des jouets pour enfants ou à des jouets pour chiens aussi parfois, parce qu'il y a des formes un peu voilà. Même dans les matières.
Moi, je confirme, ma chienne dog allemand m'a bouffé trois canards.
Voilà.
Donc elle aime bien les canards.
Bah voilà.
Contrairement.
J'avais toute une collection de canards et ils m'en voilà.
Ah bah oui.
Non, et je trouve ça pas mal que ça ressemble à un moment donné à un objet sexuel. Et parfois, ça devient trop. En Japon, on appelle ça kawaii, quoi. Trop mignon et trop.
Oui, c'est ça.
Alors, trop high-tech, un peu quand même.
Pas forcément high-tech, mais c'est comme si c'était, le plaisir était possible si on l'enrobait d'un truc un peu bonbon, un peu fille, un peu girly. Et alors qu'à un moment donné, on parle quand même d'un objet sexuel.
Et qu'on l'éloigne du vrai sujet.
Oui, ouais, c'est ça.
Mais c'est intéressant ce que vous dites, Camille, parce que c'est vrai qu'il y a des femmes qui, au contraire, sont déjà excitées parce que ça ressemble à
un
sexe. Pénis, quoi.
Ouais, bah, oui.
Évidemment, la couleur, il a pris un coup de soleil, on est d'accord.
Voilà.
Mais c'est vrai. Bon, en tout cas, on est plutôt positive.
Oui.
Hein.
Bah oui.
on donne une bonne note. Hein.
Bonne note, ouais.
Ça, bonne note au lapin.
Ça, c'est un classique. Voilà.
Moi, j'aurais dit plutôt lapine, mais enfin bon. Et puis, je vous propose maintenant d'écouter un témoignage. C'est Pierre qui se plaignait de sa femme qui n'était plus amoureuse de lui. Et puis, on va écouter Robert Zulli qui nous avait expliqué ce que moi j'appelle toujours l'intelligence émotionnelle.
RMC, tout ce que les femmes se disent entre elles, c'est dans le Lie Night Show.
L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité que nous avons en tant qu'individu à intégrer nos émotions dans le registre intellectuel. C'est-à-dire d'être capable de rationaliser sur des choses qui sont qui appartiennent au champ de l'affectif et de l'émotion, alors qu'on dit que les émotions, c'est quelque chose qui est très empirique, qui est absolument pas contrôlable. Or, c'est une mécanique, l'émotion. Et à ce titre, elle est rationalisable à la condition de bien la prendre en compte dans notre faculté de compréhension des relations, puisqu'en fait l'intelligence émotionnelle, elle ne peut se mettre en œuvre qu'au travers du lien avec une personne, puisque c'est la caractéristique du lien, c'est que ce sont nos émotions qui constituent le ciment de la relation à l'autre. Donc si dans une relation amoureuse, on n'est pas capable de prendre en compte de manière efficace et utile, hein, bien sûr, nos émotions, ça rend la relation bien plus complexe. Et dans ce cas-là, il y a des choses qu'on ne comprend pas.
C'est terrible parce que vous écoutez Robert Zulli, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui a une bonne intelligence émotionnelle.
Vous savez, c'est souvent la chose que je fais.
Vous avez du boulot.
Oui, mais c'est un vrai travail d'éducation, en fait. Parce que vous vous rendez compte que jamais personne ne nous apprend ce qu'est une émotion. Jamais, que ce soit nos enfants, ensuite quand ils sont à l'école, ou un peu plus grand, à l'université ou dans les grandes écoles, jamais personne n'explique à nos enfants ce qu'est une émotion. Pourquoi un enfant dans la cour de récréation, il est en colère après son petit copain? Pourquoi est-ce qu'on pleure quand on a un objet auquel on est attaché, qu'on a perdu? Et c'est dommage, parce que comme on n'arrive pas à nommer ce que nous ressentons, c'est extrêmement dur de pouvoir les gérer, ces émotions, puisqu'on ne sait pas les nommer. Et tant qu'on n'a pas appris à nommer ça, tant qu'on n'a pas été éduqué, on a du mal à l'exploiter. Et c'est effectivement une grande partie de mon travail.
Bonjour Pierre.
Oui, bonjour.
Bonjour Pierre.
Bonjour à tout le monde. Voilà, donc, c'est difficile d'expliquer une relation de 10 ans rapidement, mais donc on est marié depuis 10 ans, enfin on couple depuis 10 ans et marié depuis 3 ans, 2 enfants. Et il y a de ça 2 semaines maintenant, ma femme m'a dit qu'elle avait peur de ne plus avoir de sentiments amoureux, de les avoir perdus.
Moi, je pars du principe, Robert Zulli, que le sentiment amoureux, c'est de toute façon quelque chose qui ne dure pas.
Il évolue, oui. Bien sûr, au départ, il y a l'exaltation. Et c'est ce qui fait qu'on différencie l'amour de l'amitié. C'est cette exaltation amoureuse qui provoque des sensations très fortes et qui fait qu'on est extrêmement accroché, qu'il y a une forme de dépendance à l'autre sans que ça veuille dire qu'on perde sa liberté, bien sûr.
Oui, exactement ça, oui.
Et puis, au fur et à mesure, ce lien évolue. D'abord parce qu'il y a l'habitude de la vie commune, qu'il y a des choses à apprendre ensemble, à vivre ensemble. Et les choses peuvent évoluer. Donc, la question qui se pose dans votre relation de couple, c'est est-ce qu'elle a peur de ne plus être capable de ressentir les exaltations qu'elle a eues du début, ou est-ce qu'elle est en train de perdre définitivement le lien d'amour qui la lie à vous? Et c'est, je crois que c'est important de faire la différence, parce que dans le premier cas, il y a des choses qui peuvent vous permettre de réactiver cela, et dans le second, il y a peut-être un travail de reséduction, de redémarrage de votre relation, et c'est important que vous puissiez, entre guillemets, faire un diagnostic avec elle, et que vous osiez, vous, malgré peut-être la peur de la réponse que vous pourriez avoir, aborder ce sujet. Et c'est pas toujours facile.
Tout, en tout cas, je pense que vous avez tout à fait raison. Mais moi, je préfère qu'on se dise les choses. On a un couple qui a toujours énormément communiqué.
Oui.
Vraiment, la communication, et bon, on est passé par les phases que vous avez décrites. Hein, la fusion au départ, où on était la passion, on était vraiment tout le temps ensemble. On faisait toutes les choses ensemble. Notre quotidien s'est simplifié en partageant notre vie et en voulant tout le temps être ensemble, la serrer. Maintenant, il y a toujours eu, en fait, un espèce de tabou non dit entre nous. C'était par rapport à l'aspect sexuel, où on avait... Moi, en fait, je pense que j'ai un problème par rapport à l'acceptation de mon corps. Donc, en fait, j'ai pas confiance en moi à ce niveau-là. Et elle, de son côté, avait vécu des histoires qui l'avaient un petit peu fragilisé sur le plan sexuel. Et donc, on n'a jamais été vraiment débridé, libéré, alors que je pense qu'on a tous les deux une grosse libido. Et elle se masturbe beaucoup de son côté. Je me masturbe beaucoup raisonnablement, mais
c'est vraiment étrange à ce niveau-là parce que
on n'a jamais réussi
à passer le pas en fait.
Mais alors c'est intéressant ce que vous dites parce que c'est peut-être une piste que vous pouvez prendre, Pierre. Vous pouvez peut-être à ce moment-là retourner vers elle et lui dire tu as raison, on est tombé dans une habitude monotone. Il faut absolument qu'on se prenne en main.
Mutuellement, à chacun de son côté. Ouais.
Vous voyez, c'est une bonne manière d'essayer de faire repartir le couple. Vous savez, Pierre.
La question aujourd'hui, c'est de se dire, c'est la question. Est-ce que j'ai perdu cette flamme du départ ou est-ce que je les ai perdues à jamais? Est-ce que, en fait, elle se dit, j'ai jamais eu ça. Retrouver quelque chose que j'ai l'impression de ne pas avoir eu, c'est difficile.
Oui, mais vous aurez peut-être besoin de vous faire aider. Mais en tout cas, c'est très fréquent chez une femme lorsque elle ne vibre plus de penser que c'est fini, qu'il faut qu'elle vive autre chose. Alors que l'homme va rester n'a pas ce même rapport à ça.
Ben disons que pour moi c'est surtout que ça implique énormément. Il y a une évolution des sentiments, c'est ce qu'on disait. J'ai l'impression que c'est ce qu'elle n'arrive pas forcément à intégrer, ou c'est moi qui la comprends mal. Mais il y a une évolution. Au début c'est la passion, après on tombe dans le quotidien. Aujourd'hui en fait quand on fait le point, on a très peu de temps à s'accorder l'un pour l'autre dans la journée parce que entre mes déplacements, le travail.
Oui mais Pierre, là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que bien sûr que le quotidien prend beaucoup de place dans un couple, mais on doit pas tomber dans le quotidien. On doit garder cette part de fantaisie qui est pas forcément toujours uniquement sexuelle, mais si un couple n'a pas de la fantaisie et ne s'amuse plus ensemble, il est certain qu'il est en danger.
Et c'est là où elle vous envoie un signal, c'est qu'il y a quelque chose qui ne lui convient plus. Ça ne veut pas dire que c'est vous qui ne lui convenez plus. Faut peut-être faire la distinction entre les deux. Et si vous arrivez à définir ce qui pourrait vous convenir, c'est-à-dire à quelles conditions vous réussiriez à prolonger votre histoire d'amour, parce que ça n'est quand même une, compte tenu de ce que vous avez vécu ensemble, et la voie de la sexualité semble être une piste intéressante de réinvestir ce champ, peut-être de manière originale, en le définissant ensemble. Ça serait dommage de passer à côté ça.
Oui, tout à fait.
Quels seraient vos fantasmes, Pierre? Qu'est-ce que vous auriez envie sexuellement de pouvoir faire avec elle?
Enfin, voilà, aller chercher une lumière rouge pour créer une atmosphère dans la chambre, justement, où on se distingue et où on n'est pas forcément en pleine lumière ou dans le noir.
Ce serait pas mal à ce moment-là de vous acheter une bougie de massage. Vous aurez à la fois une couleur différente, vous pourrez éventuellement lui caresser le corps. C'est pas forcément une invite à la sexualité, mais un premier pas, vous voyez.
C'est scénariser votre sexualité.
Moi, mes émotions aujourd'hui, elles font que je ressens une colère.
Contre qui?
Je me dis, il faut contre ses sentiments. Contre l'état des lieux qu'elle dresse actuellement, parce que si vous voulez, j'ai rien vu venir en fait, dans le sens où et elle non plus n'a rien vu venir. C'est d'un seul coup quand elle a réalisé que ça allait, enfin que la situation était la même. Et est-ce qu'on avait vraiment des sentiments amoureux ou est-ce qu'on était plus un couple qui avait une vie bien mais sans réel. Et c'est là où les émotions, enfin en tout cas moi je ressens la
bien
colère.
Sûr.
Elle est perdue de son côté.
Bien sûr. Le risque de votre colère, c'est qu'elle vous enferme dans ce qu'on appelle une forme d'opposition passive. C'est-à-dire que vous n'allez rien faire pour changer les choses en disant c'est à elle de faire l'effort, c'est à elle de faire le premier pas. Puisqu'elle me remet en cause,
c'est à elle de me réparer.
C'est pas à moi.
Voilà. C'est ce que je me dis, mais j'arrive pas à le faire.
Et ça, c'est votre. Mais oui, c'est votre piège. Et franchement, si vous ne mettez pas un coup de pied dans les fesses, si vous ne mettez pas votre fierté dans votre poche de ce point de vue-là, en fait, si vous l'aimez vraiment, vous serez capable de le faire. Parce que l'amour vous invite au dépassement de vous-même.
À mon avis, cette colère, elle vient de cette frustration qui dure depuis pas mal de temps, parce qu'au fond, vous êtes sexuellement, vous avez envie de plein de choses, et puis vous attendez que ce soit elle qui bouge, mais comme elle bouge pas, vous êtes frustré, et comme maintenant elle veut en plus se séparer, vous êtes en colère. Mais je crois que c'est ça l'origine de la colère.
Il y a peut-être une double colère, c'est que vous êtes peut-être même en colère contre vous-même, puisque vous n'arrivez pas à changer.
RMC, tout ce que les femmes se disent entre elles, c'est dans le Lae Night Show. RMC, quand Brigitte Lae fait son show, c'est le Lae Night Show.
Notre love coaching de ce soir, nous sommes trois dans un dîner, alors avec notre partenaire adoré bien sûr, et puis une tierce personne. On sait que le triangle n'est jamais très facile. Bon, on est quatre pour vous en parler, puisque j'ai avec moi Ornella Fleury, que vous pouvez aller voir dans ce spectacle durant tout le mois d'août au Point Virgule, son one-man show. Nous sommes également avec Camille Emmanuel, qui est auteur de Sex Powerment aux éditions Anne Carrière. Le sexe libère la femme et l'homme, c'est le sous-titre de ce livre, et je suis bien d'accord avec elle. Et Franck Spengler, qui est avec nous, éditeur des éditions Blanche. Voilà. Alors, c'est vrai que quand on est trois, c'est toujours compliqué, parce qu'il faut qu'il y en ait un qui un petit peu se mette en retrait.
Ouais.
Souvent.
Alors on parle d'un dîner là ou on est...
D'accord.
D'un dîner, oui. Alors oui, de dîner à trois, c'est très compliqué, mais ça dépend qui est la troisième personne. Parce que vous disiez, on avait ou une belle-mère ou un meilleur ami, c'est ça?
Oui, enfin. Ouais.
Ou l'ex.
Quelqu'un qui, ouais, voilà. Quelqu'un qui n'est pas dans le
couple. Là, vous corsez le jeu, Franck.
Non, quelqu'un qui n'est pas dans le couple.
C'est ça.
Oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et si on prend la belle-mère, par exemple, là, c'est compliqué parce que il faut s'occuper plus de la belle-mère que du chéri. C'est ça qui est toujours plus, ouais, c'est plus important, quoi.
De sa propre mère ou de...
Non, de la belle-mère.
Ah bon?
Ouais. Mmh. Ah oui, bah moi, je sais que si je vais dîner avec ma belle-mère et mon chéri, je vais faire plus attention à ma belle-mère qu'à mon chéri pendant le repas.
Mmh. Alors, c'est intéressant parce que ça veut dire que vous avez pas trop de problèmes de rivalité. Vous savez vous mettre complice avec quelqu'un alors que d'autres femmes se mettraient en rivalité.
Ah ouais.
Donc
ouais.
C'est plutôt bon.
C'est oui, plutôt bon. C'est, plutôt signe. Bon signe,
c'est le premier conseil que je donnerais, c'est surtout éviter la rivalité parce que c'est ça qui pose souvent problème, c'est que on a son chéri, justement son chéri, il est à moi et on a envie de rester et alors que l'idéal c'est en effet de pouvoir se mettre un peu en retrait, donc en complicité avec la tierce personne.
Mmh. Oui, parce que vous lui avez quand même, faut pas jamais oublier, pour une mère, vous lui avez quand même piqué son fils. Hein.
Oui, apparemment. Oui.
Ah non, c'est toujours comme ça.
Ouais, ouais, je sais, bah, je
pas,
sais.
Pas,
ouais.
Apparemment, c'est réel.
Bon, j'ai pas, il reste quand même très proche. Les garçons, ils restent quand même très proches de leur mère, toujours.
Ah oui, toujours.
Mais oui, c'est vrai que pour une mère, ça doit être compliqué, c'est vrai, d'ailleurs. Mais c'est pour ça qu'il vaut mieux être mignonne avec la belle-mère.
Oui.
Surtout une femme comme vous, elle peut pas lutter.
Non, j'ai lâché, moi, c'est bon, je reste en retrait et du coup, comme ça, tout le monde passe une bonne soirée, c'est mieux.
Parce que c'est ça, voilà, parce que c'est ça le but, c'est que tout le monde passe une bonne soirée.
Ouais.
Et essayer d'inclure aussi, parce que je pense à la situation meilleure amie ou meilleure amie. Je pense arriver à plein de personnes, notamment au début d'une relation, quand on rencontre le meilleur pote ou la meilleure pote, où ils vont passer un dîner à se raconter leurs souvenirs depuis 15 ans.
Et là, vous êtes complètement
exclus. Les super soirées, on n'a jamais été, les vacances, et vraiment, c'est trop drôle. Et du coup, ils racontent des moitiés de blagues, parce que ils se connaissent tellement que du coup, ils ont
sans compter éventuellement les allusions un peu sexe
qui vont pouvoir.
Tu te souviens,
exister,
là, de Brigitte et tout, là, au camping et tout.
Et ça peut être embêtant pour la personne qui, dans un nouveau couple, de sentir exclu et de ne pas avoir sa place. Et en fait, je pense, quelle que soit la configuration, c'est donner sa place à chacun et bien dire, c'est ma meilleure amie ou c'est mon meilleur ami, mais tu es aussi ma petite amie ou mon petit ami et t'as une place présente, quoi. Et du coup, faire l'effort de, quand on raconte une anecdote, de vraiment la raconter en entier et pas juste un moitié truc que personne comprend.
C'est ça.
Et puis pouvoir intégrer l'autre, en fait, à ça. Pourquoi pas inviter aussi d'autres. Éviter peut-être le trio aussi, inviter d'autres personnes pour.
Là, vous changez les règles du jeu. On dit qu'on joue au Monopoly. Tiens, si on faisait un jaquet.
Je suis un peu comme ça.
Mais je trouve que Camille Emmanuel donne la vraie solution. Si vous êtes invité avec. Si votre compagnon invite son meilleur ami, si vous pouvez inviter aussi une copine, ça simplifiera la chose.
Ça se trouve, on se met ensemble.
En plus, vous ferez des heureux.
En plus. Oui, 4, c'est beaucoup mieux.
Ouais.
3, c'est toujours très compliqué. C'est compliqué même pour des copines. Quand on est 3, c'est très compliqué aussi.
Il y en a toujours une qui est obligée de se mettre un petit peu en retrait. Et c'est, alors après, on peut avoir une tendance à se mettre plutôt en retrait. Donc ça, c'est pas gênant, hein. Moi, personnellement, je sais très bien me mettre en retrait. Ça me dérange pas d'écouter. Et puis, puis voilà. Mais il faut bien rappeler que c'est toujours un peu compliqué la situation à 3. Donc il faut prévoir ce qu'on va faire pour ne pas se sentir mal à l'aise ou voire même que ce soit très désagréable. Franck,
moi, quand on est 3 comme ça, je donne toujours je donne toujours la priorité à l'invité. Donc c'est lui qui est un peu entre guillemets la star ou l'œuf.
Ouais.
la star oui. de la soirée, et on s'intéresse à lui et tout.
Ah, je peux venir à vos soirées.
Ah, bah oui.
J'aime bien la star
ça
de la
soirée. Ça va bien, ma femme, je crois. Mais voilà. Et sinon, j'ai un autre truc, parce que souvent aussi à trois, des fois, il y a des moments où on peut arriver à s'emmerder. C'est le truc tout bête. Maintenant, on a tous des portables et tout. Vous faites des blind tests musicaux. Non. Vous allez voir l'ambiance que ça crée.
En fait, si je viens chez vous et vous proposez un blind test, ça veut dire que vous faites chier avec
moi. Non, ou j'ai envie qu'on se marre ensemble. Non, parce que ça devient vite très très marrant.
Oui, d'accord.
C'est très marrant.
Ça remplace le jeu société.
D'avoir un espace ludique.
Je suis pas sûre que la belle-mère de Ornella apprécie.
Ça dépend. Pourquoi elle aime pas la musique, ta belle-mère?
Si, elle aime beaucoup la musique. Non, je m'étais dit, moi j'imaginais un dîner au restaurant, c'est pour ça. Tu vois, c'est au milieu du resto, tu fais un blind test, ça. Voilà.
On y remet bizarre.
Mais effectivement, dans un contexte un peu plus calme, ça peut être rigolo. Oui.
Ouais.
Bon, et ben voilà, on vous a donné quelques conseils, c'est le principe de ce love coaching. Et puis, nous allons écouter Caroline, qui était la petite amie d'un homme addict au sexe. On l'écoute.
RMC, quand les femmes se lâchent, c'est dans le Late Night Show.
Oui, bonjour Brigitte et bonjour Isabelle.
Bonjour, vous avez 39 ans et vous êtes chimiste.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un sujet que je vous appelle. Parce que en fait, quand je dis aux femmes que je suis chimiste, j'ai l'impression que ça les fait fuir en fait. Et c'est sûr que c'est beaucoup moins prestigieux que les métiers de pompiers ou etc. Mais bon, alors je comprends pas trop en fait.
Pourtant, c'est pas
comme ça. Quoi. Donc,
Écoutez, je pense que là, il y a quelque chose qui doit être mal dit ou mal compris parce que c'est pas une profession a priori qui.
Moi, je trouve pas non plus. Hein.
Chimiste, c'est même plutôt rigolo, je trouve, non?
Oui, ça peut l'être, effectivement.
Enfin, j'ai pas dit que c'était rigolo, hein, je dis pas que...
Non, mais... non, je comprends bien, mais il y a des mélanges qui, effectivement, peuvent être...
Elles ont peur que vous fabriquiez un filtre d'amour et qu'elles soient complètement dépendantes de vous, ça doit être ça.
Alors, j'ai toujours pas trouvé la formule, mais effectivement, je pourrais chercher.
Oui, cherchez-la, et puis moi, je suis preneuse. Hein. On va faire fortune, Stanislas, si vous arrivez à créer le filtre d'amour.
Bien sûr.
Non, mais je pense que ça doit. Vous avez focalisé sur ça, mais à mon avis, c'est pas ça le problème.
Bon, ah ben, moi, je suis d'accord avec Brigitte. C'est peut-être arrivé plusieurs fois ou seulement deux fois?
Non, plusieurs fois. Non, c'est vrai que tout se passe bien en fait, jusqu'à ce que effectivement je leur dise que je suis chimiste et effectivement j'ai l'impression qu'il y a une réaction de recul vis-à-vis de ça. Quoi. Alors j'en suis arrivé à mentir pour effectivement ne pas les faire fuir.
Mentir, mais vous pouvez donner une profession équivalente. C'est pas ce que je veux dire, c'est pas la même chose. Mais par exemple, vous pouvez dire je suis pharmacien ou quelque chose qui s'y approche et qui et comme ça, peut-être que vous verrez si ça provoque les mêmes choses. Mais sincèrement, je pense qu'il doit y avoir dans votre comportement à un moment donné, alors sans doute lié au moment où vous annoncez votre profession, quelque chose qui les fait fuir. Mais c'est pas la profession qui peut faire fuir les femmes.
J'ai même une suggestion. Est-ce que vous en faites un complexe ?
Non, pas du tout.
Ouais.
Non, aucunement.
On ne comprend pas.
Non, je pense qu'il faut chercher ailleurs. Stanislas.
D'accord.
Mais vous donnez votre profession à quel moment de la relation? On va essayer de chercher quand même un peu.
Généralement, c'est quand même au début, c'est quand on fait connaissance, etc. Qu'est-ce que tu fais? On se demande toujours qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Même sur Internet, quand on discute un petit peu, etc. Bon, j'évite de le dire par écrit maintenant, donc j'essaye de retarder. Et il m'est arrivé de le dire de vive voix, je sens...
vous le dites très très tôt, hein, en quelque sorte. Hein.
Ah oui, c'est parce que quand on fait connaissance avec la personne, c'est vrai que dans les premières questions qu'on pose, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie. Mmh.
Peut-être que vous vous adressez à des femmes qui sont pas intellectuelles ou qui ne sont pas scientifiques et peut-être que ce domaine leur fait peur.
Peut-être, oui. Oui, c'est vrai que c'est des femmes qui n'ont pas un profil scientifique en règle générale. C'est vrai que c'est ouais.
Mais écoutez, moi je pense, Stanislas, qu'au lieu de parler de vous et de dire ce que vous faites, etc., essayez plutôt de les écouter. Et peut-être que vous avez pas assez, vous leur laissez pas assez. Parce que finalement, les femmes, elles ont beaucoup besoin de parler d'elles. Quand elles posent des questions, c'est pour être rassurées. Mais alors peut-être que le métier de chimiste les rassure pas, j'en sais rien. Mais voyez, essayez plutôt quand vous discutez avec une femme de la faire parler d'elle.
D'accord.
Hein, je pense que c'est peut-être la piste à prendre. Et puis voilà. Mais je suis pratiquement certaine que c'est pas votre métier qui est en cause. Merci Stanislas. Merci.
Merci à vous. Merci Brigitte. Au revoir.
Et puis Zouzou voudrait réagir, voudrait nous parler de libertinage.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour Michel. Je voulais vous raconter comment j'ai découvert le libertinage. C'était une envie de tester la double pénétration après avoir découvert le plaisir anal avec mon partenaire de l'époque. Mmh. Et donc, l'objectif c'était d'avoir la possibilité de le réaliser, et l'idée de le faire dans un sauna libertin est venue assez rapidement, puisque c'était plus compliqué que je ne le pensais de le réaliser avec des personnes que je connaissais. Et puis j'ai testé, et puis là on m'a expliqué effectivement le fonctionnement, les règles où tout est possible et rien n'est obligatoire. Je suis rentrée dans ce rôle où j'ai plutôt retiré plus exactement tous les rôles que j'avais une fois à l'intérieur, et je me suis lâchée sans me prendre la tête avec ce que peuvent penser les gens, puisque le contexte s'y prête énormément. Et puis j'ai pu complètement me lâcher, et puis ça s'est terminé quasiment, je sais pas si on peut le dire, en orgie. Je me suis lâchée dès la première fois. Après, c'est pas forcément le cas de tous ou de toutes, mais je trouve que c'est un lieu, quand il est bien géré, qui permet vraiment de se lâcher, de plus avoir d'a priori sur ce que peuvent penser les autres, et on s'écoute soi-même, ses propres désirs.
Vous avez raison. Si le club libertin ou le sauna, enfin qu'importe, hein, est bien tenu, en effet, il y a des gens qui sont là pour avoir du sexe, uniquement du sexe, et qui n'ont aucun jugement de ce qui se passe à côté. Et donc, à partir de ce moment-là, vous êtes dans une ambiance où vous vous sentez totalement libre de vous lâcher. Et donc, vous avez pu réaliser votre fantasme ?
Oui, et même plus, puisque on était... Je sais pas, je crois qu'il y avait au moins 5 garçons. À un moment donné, il y a même eu un couple aussi qui s'est joint à nous. C'était... un assez gros lâchage, quoi, une expérience assez forte. Et puis du coup, moi j'ai vraiment pris goût à ce milieu-là où je me sentais complètement libre d'assumer toutes mes envies. Après il suffit de dialoguer pour connaître les envies de chacun et respecter éventuellement les contraintes des uns des autres, quoi, s'il y en a. C'était vraiment une découverte. J'y vais.
Oui, j'ai bien compris que vous y avez trouvé votre compte, si je puis dire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que là, c'est vous, hein, qui avez eu envie d'aller dans un club pour pratiquer d'abord un de vos fantasmes, donc la double pénétration.
Exactement.
Votre compagnon, visiblement, était bien sûr d'accord, mais c'est pas lui qui vous a entraîné, et c'est vous qui avez trouvé le plus de plaisir.
Oui, tout à fait. C'est un sujet que j'essaye de partager le plus souvent possible. J'aime beaucoup votre émission qui... la sexualité et ses travers, si je puis dire, plus accessible et plus excusez-moi, je trouve pas les mots. Vous vous rendez le sujet un peu plus démocratique. C'est vrai, j'aimerais bien que ça continue à évoluer. Votre émission contribue.
À mon avis, Zouzou, vous n'avez pas vraiment besoin de moi. Hein. Je crois que vous êtes relativement libre et vous assumez vos fantasmes.
J'aimerais qu'il y en ait plus pour qui le sujet serait moins tabou, parce que je suis obligée de vous appeler avec justement un pseudo. Et je trouve ça dommage. Moi, j'aimerais vraiment que le sujet de la sexualité soit abordé de manière beaucoup plus courante dans les sujets de conversation quotidien.
Mais je crois pas. Vous voyez, Zouzou, je suis ravie de faire cette émission et je suis ravie de contribuer à ce que chacun puisse plus facilement peut-être vivre une sexualité libre. Mais je crois pas qu'il faille parler de sa sexualité dans les dîners mondains le soir. Vous voyez, je crois qu'il faut quand même que ça reste de l'ordre de l'intime. Alors bien sûr, moi j'en parle sur une radio grand public, hein. Mais j'en parle en respectant, si je puis dire, l'anonymat et l'intimité de chacun. Vous voyez?
J'entends bien. J'entends bien, et je suis assez étonnée que vous me parliez de ça, parce que j'aurais pensé que vous puissiez aborder le sujet un peu plus souvent, et pourquoi pas un dîner mondain. On parle de politique, on parle de religion, on parle de plein de choses, pourquoi pas parler de sexe.
Mais parce que ça reste de l'ordre de l'intime. Vous voyez, quand vous vous envoyez en l'air dans un sauna et vous faites l'amour avec plein d'hommes, bon, ben, vous faites quelque chose qui fait partie de votre vie privée, mais vous n'allez pas le lendemain, quand vous allez rencontrer votre patron, lui raconter ça.
Non, bien évidemment, il y a des détails, mais je veux dire, c'est un sujet qui pourrait être abordé un petit peu plus souvent. Après, on est obligé forcément de rentrer dans les travers. Moi-même, j'ai été à un moment donné interviewée par un garçon, Rudy Melitzek, qui est sur Facebook. Vous avez vous-même été interviewée par ce même garçon, et on a pu aborder...
Ça nous fait un point commun, Zouzou.
Oui.
Oh, on n'a peut-être pas que celui-là.
Il n'y a peut-être pas que celui-là, oui.
Bon, en tout cas, je crois que c'est important qu'on comprenne bien que la sexualité, il faut en effet être libre, se lâcher, se donner du plaisir, mais ça doit rester de l'ordre de l'intime. Sinon, ça va être un grand bordel, et il y a déjà assez de bordel comme ça dans notre société. Merci Zouzou, merci beaucoup. Bonjour Nicolas.
Bonjour Brigitte. Je vais vous raconter une histoire qui a un peu, enfin pas un peu, qui a carrément bouleversé ma vie. J'ai rencontré une personne autour de mes 40 ans, alors que je pensais avoir quasiment tout vu, tout fait en matière d'amour et de relations. Et je suis tombé sur une personne qui m'a complètement transformé. J'étais une personne assez macho, pas très câline à la base. Et je suis tombé amoureux d'une femme qui assume me prendre en main, me montrer la tendresse, ce que c'était que l'importance des caresses, l'importance des bisous. Et ça a bouleversé ma vie. Je garderai en image un baiser qu'elle m'a offert pendant 10 minutes, et quand nos bouches se sont décollées, j'en avais la tête qui tournait. Je lui demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'elle m'a répondu, je pense que c'est ça l'amour, et tu n'es pas encore habitué. Je vais t'apprendre. Et pour la première fois, je me suis laissé aller, et je suis tombé dingue amoureux de cette personne. On est devenus très très complices, comme des âmes sœurs. La tendresse.
Mais alors, ce qui est extraordinaire, oui, dans ce que vous racontez, c'est qu'au fond, vous embrassez cette femme sans trop, sans particulièrement penser que c'est la femme de votre vie. Mais c'est au moment où vous l'embrassez que tout d'un coup, votre cœur, votre corps s'embrase, c'est ça?
Oui. J'avais déjà une alerte peu de temps avant, puisqu'ils nous prions ensemble d'une soirée de Belgique, et dans la voiture, elle s'est endormie, la tête posée sur moi, et sa main a touché la mienne. Et le contact de main à main m'a rendu complètement tout chose. Je me suis dit, mince, qu'est-ce qui se passe? Ça doit être la fatigue, ou on a un peu trop fait la fête. Bon, et non, et effectivement, ça s'est confirmé avec ce baiser. Moi, qui n'étais pas du tout baisé, quoi. Enfin, je trouvais que c'était une perte de temps. Les films d'amour avec les baisers, ça m'ennuyait. Les chansons d'amour, on n'en parle pas. Et là,
c'était une défense. Vous étiez un vilain macho, parce qu'au fond, vous êtes un cœur sensible et vous aviez une armure, voilà. Et elle a réussi à percevoir derrière l'armure qu'il y avait un homme sensible. Hein, ça doit être ça.
Sûrement, oui. Mmh. Enfin, c'est même pas une armure. Je pense qu'elle a dû écrouler un château fortifié. Ah oui, parce que c'est. Enfin, je redemanderai jusqu'à la fin de mes jours de ces baisers-là, de ces caresses-là. J'ai souvenir des premières nuits passées ensemble, ou juste le fait d'avoir sa main posée sur moi. Je dormais merveilleusement bien, donc je suis plutôt quelqu'un de très nerveux qui dort pas très bien la nuit. Et elle avait, enfin, ça c'était. J'ai toujours pas compris.
Il y a rien à comprendre, Nicolas. C'est ça l'amour, et puis l'amour c'est éternel, donc tout va bien.
Oui, c'est vrai. De toute façon, ce qu'elle m'a offert, je pourrais pas le perdre, parce que c'est ancré en moi. Et
voilà, c'est une très jolie phrase, et il faut se le répéter. Et on se retrouve dans un instant, non pas pour le blind test, mais pour le love test.
RMC, quand les femmes se lâchent, c'est dans le Late Night Show.